Bonjour et bienvenue à tous à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience, le Centre de Culture Scientifique Technique Industrielle de Bordeaux, la librairie Mola et les bibliothèques de Bordeaux. Nous accueillons aujourd'hui Gauthier de Pambourg et Alain Aspect. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme c'est l'usage...
Bonjour.
Comme c'est l'usage dans notre cycle de conférences mensuelles, afin de mieux vous connaître, nous avons proposé un petit portrait chinois qui est basé sur les quatre lettres du mot ECHO. Je commence par vous, monsieur de Pambourg. Si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ?
Quand j'avais 10 ans, j'ai vu une émission à la télé de Brian Greene, un documentaire sur la théorie des cordes. Ça m'a fasciné, ça m'a donné envie de faire de la physique. Et après quelques petites choses dans mon parcours divers et variés, je me suis tourné vers l'histoire des sciences, mais quand même, je suis resté dans le domaine de la physique.
Si je vous dis c'est comme croyance, quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ?
Alors quand même, pour faire le lien avec le livre, je suis désespéré des gens qui pensent qu'Einstein n'avait rien compris à la mécanique quantique. Peut-être est-ce lié à cette fameuse phrase qu'on lui prête, Dieu ne joue pas au dé. Et voilà, c'est l'une des croyances que l'on conteste dans ce livre, bien sûr.
Et H comme humain, quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ? Vous n'avez pas le droit de dire l'aspect.
Alors c'est dommage parce qu'on m'a posé cette question récemment et j'avais répondu justement à Alain Aspect, mais il n'était pas là à ce moment-là, donc je ne me dédie pas. Mais mon autre directeur de thèse, Olivier Darigol, qui est historien des sciences, est une personne absolument formidable et j'ai une grande admiration pour lui. Donc je répondrai aussi à Olivier Darigol.
Et O comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ?
Eh bien, le fait que vous soyez là ce soir, parce qu'on a vécu quand même, notamment pendant le Covid, une grande période de défiance envers la science, et le fait que vous soyez là, que vous soyez intéressé par ce livre, eh bien, je pense que c'est une belle preuve que la science a encore de beaux jours devant elle.
Je vous remercie. Monsieur Aspect, à vous. Alors, si je vous dis...
Je ne me rappelle plus déjà des questions.
Non, mais je repose la question, ne vous inquiétez pas.
D'accord.
Si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ?
Alors, incontestablement, la lecture du papier de John Bell, qui montrait d'une façon si claire que si on suit le point de vue d'Einstein, on a une conclusion. Si on suit le point de vue de Bohr et de la mécanique traditionnelle, on a une autre conclusion. Un raisonnement a l'air aussi impeccable que l'autre, et on va pouvoir trancher entre les deux par une expérience. Ça a littéralement changé ma vie. Mais je suis tombé à la renverse quand j'ai lu cet article. Et vous m'aviez dit répondre court.
C'est bien.
Ah bon, ça va.
On a une heure ensuite pour développer tout ça.
Non.
C'est comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ?
Alors, l'idée reçue qui me désespère, c'est les gens qui n'ont pas la moindre idée et encore moins la moindre confiance dans la méthode scientifique, alors que tous les bienfaits que nous avons à notre disposition... repose sur l'efficacité et la robustesse de la méthode scientifique.
H comme humain, quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ?
Oh, vous avez vu le titre du livre ? Alors j'hésitais entre M. Hirsch et Albert Einstein, mais les deux sont très importants pour moi. Mais je pense quand même que je vais rester sur Einstein.
Et finalement, O comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ?
C'est le fait que s'il y a un certain nombre de gens qui pensent que la Terre est plate... En fait, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la science. Le public que l'on a ce soir le montre. Et vous regardez, vous avez d'excellentes vidéos, d'excellentes chaînes YouTube de vulgarisation de la science. Par exemple, j'aime bien les citer parce que je trouve qu'il n'y a rien à jeter, c'est science étonnante. Et vous avez des centaines de milliers de followers, comme on dit. Ça me rend quand même optimiste.
Merci de vous être prêté à cet exercice. Alors, pour compléter ce portrait, Gauthier de Pambourg, vous êtes centralien, docteur en histoire des sciences, chroniqueur et podcasteur pour Science et Vie, pianiste et magicien.
Voilà. Tout est dit, voilà. C'est bon.
Alain Aspect, de votre côté, vous êtes physicien, prix Nobel de physique 2022, professeur à l'Institut d'optique Université Paris-Saclay, professeur à l'École polytechnique et directeur de recherche au CNRS. Pas de magie.
Non, émérite au CNRS. Ils m'ont viré il y a 12 ans.
Émérite.
Si, il est un peu magicien aussi.
Si, je suis un peu magicien, oui. Oui. Moins bien, moins bon que lui, mais pas mauvais quand même.
Alors, lors de notre rencontre écho de décembre, nous avions reçu Étienne Klein pour sa BD Éternité béante, où Einstein venait dans un rêve d'Étienne Klein faire le tour des découvertes scientifiques qui avaient été faites depuis sa mort en 1955. Pas celle d'Étienne Klein, celle d'Albert Einstein. Et à l'aspect, vous étiez déjà dans cette BD. Et dans cette BD, alors qu'Einstein est à toutes les pages, la seule fois où le mot génie apparaît, c'est pour parler de vous. Alors, pas de fausse modestie. Autant vous dire que pour nous, du coup, c'est un événement de vous recevoir, d'avoir la chance de vous recevoir, une chance à plusieurs titres. D'abord parce qu'on ne reçoit pas tous les jours un prix Nobel de physique. Qui plus est français, qui plus est aquitain, puisque vous avez fait votre enfance à Agen.
Gascon.
Pardon.
Non, mais c'est l'Aquitaine, hein. Non, mais c'est l'Aquitaine.
Il dit chocolatine aussi, c'est pas grave. Qui plus est dans un domaine, la chance, hein, la mécanique quantique, qui pour la plupart des gens est un monde à la fois fantasmatique, étrange, déstabilisant et fascinant. Et enfin parce que ce prix Nobel, vous avez la version en 2022 avec vos collègues John Closer et Anton Zellinger, pour, je vous cite, « avoir donné une réponse expérimentale convaincante montrant que l'on devrait renoncer à la vision d'Einstein, rien que ça ». Voilà. Alors vous nous racontez tout cela dans un ouvrage passionnant, vraiment, aux éditions Odile Jacob, celui-là, qui s'appelle « Si Einstein avait su ». Alors, on a eu à peu près 45 minutes, une heure pour explorer cette question. Alors, avant de nous lancer dans la physique expérimentale, vous nous faites revivre le moment fantastique de la physique, l'émergence de la physique quantique, les débats scientifiques qui l'ont permis de progresser. Et quand je dis revivre, en fait, moi, je pèse mes mots parce que j'ai vous raconté ça de telle sorte, tous les deux, que j'ai vécu ça, moi, comme une série à suspense. Vraiment.
Moi aussi. C'est comme ça que je le conçois. Avec des rebondissements, des allers-retours dans les idées, des changements de point de vue.
Ça se lit vraiment comme un roman. Alors dans cet échange, on va parler de physique quantique, de non-localité quantique, d'intrication quantique. Alors je voudrais d'abord rassurer les spectateurs, les personnes qui sont là. Si vous avez l'impression que ces concepts défient parfois notre compréhension, je veux citer le prix Nobel ici présent qui dit « Moi, même si je la côtoie depuis 50 ans, l'intrication quantique m'étonne toujours, mais je m'y suis habitué ».
Donc il faut lire plusieurs fois le livre si vous voulez vous y habituer.
Pendant 50 ans, c'est un peu long. Alors tout d'abord, une question sur le livre lui-même. J'imagine que quand on reçoit un prix Nobel, il y a une pression et une envie forte d'écrire un livre. Comment vous avez abordé le défi de faire un livre grand public et compréhensible sur un sujet aussi tendu que le formalisme quantique? Et comment vous avez travaillé ensemble tous les deux sur cet ouvrage et ce tour de force?
Alors c'était une idée en fait qui était bien antérieure au prix Nobel puisque j'avais signé un contrat avec Madame Odile Jacob il y a 15 ans ou 20 ans. Et de temps en temps, tous les ans, tous les deux ans, elle me disait « Alors ce livre, Monsieur Aspect, on va l'avoir un jour ». Et en fait, j'y pensais. Je pensais à ce que pourrait être ce livre. Et quelques temps après le prix Nobel, je me suis dit que c'était le moment de le faire. Et donc, il fallait se lancer là-dedans. Et comme après le prix Nobel, on est extrêmement surchargé de sollicitations, j'avais un problème de temps. Et je dois dire que Gauthier m'a fait gagner quelques mois dans la réalisation de ce livre, parce qu'on a mis 18 mois, je crois, pour faire ce livre. Je pense que si Gauthier n'avait pas été là pour rapidement me dire « Non, mais tu sais, cette partie-là, elle est vraiment trop dure », il a joué un grand rôle pour essayer de pour m'aider à ne pas me tromper de niveau dans le livre. En plus, il a quand même corrigé quelques petits défauts de français, on va dire. Il se trouve qu'il a une maman prof de français, alors quand on avait des doutes sur le français, je me référais à lui. Il a participé beaucoup aux figures. Oui, on a bien gagné 6 mois grâce à toi, Gauthier.
Comment vous l'avez vécu?
Déjà, moi, donc, j'étais en thèse pendant qu'on a écrit ce livre ensemble. Alors déjà, il est rare d'avoir un directeur de thèse prix Nobel, mais il est encore plus rare de voir son directeur de thèse nobélisé pendant sa thèse. C'est ce qui m'est arrivé. Et donc, c'est vrai que j'ai dit à Alain, il faut vraiment en profiter, il faut écrire ce livre, il faut l'écrire maintenant, parce que sinon, on n'aurait pas pu mettre prix Nobel 2022 sur le bandeau. Enfin, si on avait publié ça en 2030, ça aurait été moins percutant. Et donc, j'ai été ravi que tu acceptes que l'on l'écrive ensemble. Et voilà, et on a eu plusieurs idées à deux. Et notamment, je pense, on en parlait tout à l'heure, le fait de faire des résumés, des essentiels, comme on l'a appelé, à la fin de chaque chapitre. Parce que j'ai dit à Alain, quand même, parfois, c'est difficile. Il faut que le public puisse s'y retrouver. Donc voilà, si vous n'avez pas bien compris un chapitre, vous pouvez lire l'essentiel. Et normalement, si on l'a bien fait, ça vous donnera envie de lire le chapitre suivant.
Et si vous êtes journaliste et que vous n'avez pas envie de lire tout le livre, vous lisez simplement l'essentiel et après vous pouvez écrire un article comme si vous l'aviez lu.
Alors c'est ce que je m'étais dit, puis en fait je suis revenu tout lire tellement c'était chouette.
Merci.
Alors pour bien comprendre comment vos travaux, puisqu'on va en parler, viennent solder une polémique passionnante, il faut que vous nous expliquiez l'émergence du de la physique quantique. Parce que une partie du bouquin revient sur cette aventure qui a commencé à la fin du 19e, quoi, et dont vous êtes dans la grande lignée des scientifiques qui ont travaillé sur le sujet, une espèce de conclusion qui permet de trancher un débat. Il faut comprendre d'où vient ce débat. Est-ce que vous pouvez l'un de vous peut nous retracer les grands jalons de cette aventure intellectuelle ?
Ben moi, je passe mon temps à faire des conférences pour expliquer ça. Donc, je croyais d'ailleurs que c'est ce que j'allais faire ce soir.
Parce qu'il y avait une partie dont
je vais en profiter. À la fin du 19e siècle, la physique est déjà une discipline très bien établie. On a vraiment établi beaucoup d'équations solides qui ont permis de décrire la lumière comme une onde électromagnétique. Et il y a un problème qui perturbe beaucoup les physiciens. C'est qu'on sait déjà que la matière est formée de charges positives et de charges négatives, et on sait que les charges positives et négatives s'attirent. Comment ça se fait que la matière ne s'effondre pas sur elle-même ? Voilà un problème absolument extraordinaire. Et ce problème ne sera résolu qu'à partir du moment où on aura compris, par exemple, que l'électron, qui est une particule, est également une onde. Et une onde, vous ne pouvez pas la contracter autant que vous voulez. C'est le fait que l'électron soit une onde qui fait qu'il ne va pas tomber sur le noyau, mais qu'il va continuer à tourner autour. Mais pour faire émerger cette physique quantique, on va passer par des détours. Et le détour, c'est l'étude du rayonnement, qu'on appelle rayonnement du corps noir, mais rayonnement d'un corps chauffé. Et c'est très curieux. Pourquoi est-ce que les physiciens s'intéressent à ça ? Franchement, ça a quel intérêt de comprendre la nature de la lumière qui est émise par un corps chauffé ? Eh bien, il y a deux intérêts. Il y a un intérêt pratique qui est qu'on est en train de faire émerger l'éclairage électrique et que les ingénieurs veulent comprendre comment améliorer la qualité de la lumière qui est émise par les ampoules. Et en même temps, des théoriciens comme Max Planck sont convaincus à juste titre, et ça, je trouve que c'est une intuition géniale de Max Planck, ils sont convaincus à juste titre que comprendre la façon dont ce rayonnement est émis va leur permettre d'aller au cœur d'un certain nombre de problèmes de physique théorique et de problèmes fondamentaux. Et c'est tout ça qui fait que la physique quantique, progressivement, va émerger et va répondre à des questions aussi importantes que pourquoi est-ce que cette table ne s'effondre pas sur elle-même ?
Peut-être pour rebondir sur cette histoire de rayonnement du corps noir, il y a une idée reçue, c'est une autre croyance qu'on aurait pu citer dans le portrait chinois du début, qui est assez désespérante. Mais on a assisté à un colloque il y a deux jours et j'ai encore entendu ça dans la bouche d'une prix Nobel. Donc comme quoi c'est une idée reçue solidement ancrée dans les esprits, qui est que Planck aurait introduit les quantas lumineux. Tu l'as entendu comme moi il y a deux jours.
Oui, mais j'ai rien dit. Bon. C'est une prix Nobel française vit en Suède, mais qui est quand même française et qui est une scientifique formidable.
Mais elle a dit ça, malheureusement. Donc ça m'a un petit peu piqué. Donc je vous le dis, hein, c'est Einstein en 1905 qui a introduit cette idée des quantas lumineux. Et c'est clairement expliqué dans le livre. Donc lisez-le. Et si vous pouvez repartir avec cette idée que Planck n'a absolument pas voulu, en fait, par ses travaux, remettre en cause la physique classique, la physique du 19e. Ce sera bien. Hein, il a trouvé ce qu'on la formule du corps noir et il a fait appel, en fait, à des outils mathématiques qui venaient notamment de la mécanique statistique de Boltzmann et qui, à la fin de son calcul, font intervenir la fameuse hypothèse des quantas, le fameux E égale H nu, où il introduit cette constante H pour Hilfe en allemand, à l'aide. Mais en fait, c'est vraiment purement une hypothèse de calcul. Il ne quantifie rien du tout du point de vue de la physique, ni la lumière, ni la matière, ni même les échanges d'énergie entre la lumière et la matière. Et c'est vraiment Einstein en 1905, alors que tout le monde était passé à autre chose, ou en tout cas n'avait pas pris au sérieux cette avancée remarquable de Planck, c'est Einstein qui va prendre toute la mesure de cette hypothèse des quantas et comprendre que si on fait cette hypothèse heuristique, comme il appelle, des quantas lumineux, on peut notamment expliquer des effets comme l'effet photoélectrique.
Et c'est là que Einstein devient le héros de votre livre, alors qu'on l'associe, nous, spontanément, jamais à la mécanique quantique.
Oui, alors, réglons un peu son compte à cette légende. Quand j'ai commencé, moi, en 1974, que j'ai expliqué à un certain nombre de collègues que je voulais trancher un débat sur la mécanique quantique entre Einstein et Bohr, la plupart de mes collègues me disaient « Mais enfin, tu sais bien que si Einstein a fait un truc génial qui est la relativité, il n'a rien compris à la mécanique quantique. » Voilà ce qu'on me répondait. Or, entre nous, la relativité, c'est génial. Mais ça a quand même une influence limitée sur nos vies. alors que la physique quantique, c'est vraiment ce qui a révolutionné la société du XXe siècle. Et donc, j'ai commencé à lire un certain nombre d'articles originaux d'Einstein, en particulier dans cette excellente traduction française de ton autre directeur de thèse qui s'appelle Olivier Darigol. On a la chance d'avoir les articles d'Einstein traduits en français et annotés par un historien des sciences excellent. Et au fur et à mesure que vous lisez ces articles, vous voyez que Einstein est la personnalité majeure jusqu'à 1925. Il prend toute la mesure de la révolution conceptuelle et de l'impact sur la compréhension du monde que représente la mécanique quantique.
Donc pas uniquement tout ce qui est relativité restreinte et générale, mais fondateur de la mécanique quantique.
Non, mais la relativité restreinte et générale l'a beaucoup occupé. Mais en même temps, écoutez, on va aller vite, 1905, effet photoélectrique, 1907, la quantification permet de comprendre un point qui peut apparaître particulier, mais sur lequel buter les physiciens, qui est la capacité calorifique des solides. 1909 ou 11, il énonce l'idée de dualité en deux particules, d'accord, qui va inspirer De Broglie une dizaine d'années plus tard. 1916, il écrit les lois qui permettent de comprendre comment les atomes émettent, ou qui permettent de décrire, pardon, comment les atomes émettent ou absorbent la lumière. Ce sont les lois que j'enseigne encore aujourd'hui aux étudiants de suboptique, aux étudiants de polytechnique, qui nous servent à comprendre le fonctionnement du laser. Excusez-moi du peu pour quelqu'un qui n'avait rien compris à la physique quantique.
Alors, du coup, bon, on a fait son panégyrique, mais à un moment donné, il se retire. À un moment donné, il se retrouve en désaccord, ou en tout cas en débat avec les physiciens du moment, 1925, il me semble, par là, où il se retire un peu du débat, du formalisme
non,
quantique.
Non.
Pourquoi tout d'un coup, il est en...
Non, 1927, congrès solvé, Einstein va opposer à Bohr des raisonnements basés sur ce qu'on appelle une expérience de pensée. Une expérience de pensée, c'est on décrit une expérience qui pourrait être faite en principe, mais qu'on ne peut pas faire parce que les moyens technologiques de l'époque ne le permettent pas, mais on exige que cette expérience suive toutes les lois physiques connues. Alors, à quoi elles servent, ces expériences ? Einstein est convaincu que l'interprétation probabiliste de la physique quantique indique une limitation de cette théorie. Donc, vous voyez, je reviens encore en arrière, un cran en arrière. Qu'est-ce que c'est l'interprétation probabiliste ? En 1925, Heisenberg d'un côté et Schrödinger de l'autre sont capables de créer un formalisme mathématique, un ensemble de règles mathématiques, qui permettent de décrire un objet comme un être mathématique abstrait qui, pour faire court, évolue dans un espace vectoriel, qui est un espace abstrait. Alors, ça peut s'exprimer en particulier comme une fonction d'onde, mais une fonction d'onde, il ne faut quand même pas voir ça comme une onde vraiment dans notre espace. Et ça vous décrit l'évolution de l'objet. Et à un moment donné, vous dites, bon, mais mon objet maintenant, voilà, à l'instant T, il est décrit par cet être mathématique. Si je mesure ceci, qu'est-ce que je vais observer ? Et là, la physique quantique vous dit, vous pouvez observer le premier résultat ou le deuxième résultat, ou le troisième résultat, et elle ne vous dit pas, vous allez observer le premier, ou le deuxième, ou le troisième. Elle vous dit, voilà les résultats possibles, et en utilisant l'objet mathématique dont vous avez calculé l'évolution, vous pouvez calculer les probabilités d'avoir le premier résultat, ou le deuxième, ou le troisième. Et ça, Einstein, il n'aime pas. Alors, ce n'est pas qu'il n'aime pas les probabilités. En 1905, il y a son article sur les mouvements browniens, qui est une merveille d'utilisation des probabilités. Mais il dit, une théorie fondamentale ne peut pas être une théorie probabiliste. Et pour... Tant pis, je vais être un peu long, mais je te laisserai la parole après. Pour faire comprendre aux gens, voilà de quoi il s'agit. Imaginez que vous voulez décrire le mouvement des molécules qui sont dans cette pièce, les molécules d'azote, d'oxygène qui sont dans cette pièce. Vous voyez bien que c'est absolument impossible, c'est trop compliqué. Il y en a des milliards de milliards, elles s'entrechoquent en permanence. Et donc, vous développez un outil statistique qui va vous permettre, au bout d'un raisonnement parfaitement bien établi, de dire le nombre de molécules d'oxygène qui ont une vitesse comprise entre 300 et 310 mètres par seconde et, je ne sais pas quoi, 3%, mettons, 5%. Bon. Voilà une description statistique. Elle est commode, elle est utile. Mais il n'empêche que nous avons tous l'intime conviction que chaque molécule a sa vitesse. Et que donc, si on arrivait à voir tout ça, on pourrait dire voilà l'état de la nanosphère. Et ça, ce ne serait pas un résultat statistique. Eh bien, Einstein pense que le formalisme quantique, qui à la fin vous donne des probabilités, signifie qu'il y a en dessous une théorie plus précise dont la physique quantique n'est qu'une physique statistique. Voilà sa conviction profonde. C'est là qu'il a dit « Dieu ne joue pas au dé ». Parce qu'il pense que si vous connaissez parfaitement le système, vous allez connaître le résultat. Et donc, il va s'ingénier à trouver des situations dans lesquelles il montre qu'on peut, en principe, mesurer les choses d'une façon plus précise que ce que dit le formalisme mathématique. Et à chaque fois, Niels Bohr répond d'une façon convaincante. Ce que j'appelle une façon convaincante, c'est un raisonnement physique impeccable que tous les physiciens peuvent suivre et sur lequel ils peuvent se mettre d'accord. Et à chaque fois, Niels Bohr dit « Non, mais Einstein, tu es gentil avec ton expérience de pensée, mais tu vois la fente là que tu as mis. Tu as oublié qu'elle est, elle aussi, un objet quantique. Et si tu prends en compte le fait qu'elle est aussi... Donc, tu ne peux pas faire des mesures aussi précises que tu le prétends. » Et là, pour revenir à votre question, qui a été posée il y a 10 minutes au moins... C'est pas qu'il boude ou quoi que ce soit. C'est Einstein, là, écoute les arguments de Bohr et il est convaincu parce qu'il est un bon scientifique. Un bon scientifique, lisant les arguments de Bohr, va être convaincu que, oui, les attaques d'Einstein, à ce moment-là, qui portent sur une particule unique, eh bien, Einstein se fait renvoyer dans ses buts, si j'ose dire. Et donc, il va se mettre dans un coin, ruminer. Et en 1935, il va arriver avec quelque chose de nouveau. Tu veux en dire un mot ?
Parce qu'il a de la suite dans les idées.
Oui, mais alors avant, ce que je voulais préciser, c'est que la cible prioritaire qu'il a en tête, justement, dans ses expériences, ses premières expériences de pensée, c'est le fameux principe d'incertitude, plutôt d'indétermination de Heisenberg. Il y en a plusieurs versions. On connaît souvent celle entre la vitesse et la position d'une particule. C'est justement cette... version du principe d'indétermination qui est impliquée dans sa première expérience de pensée qu'il soumet à Bohr en 1927, donc au congrès Solvay. C'est la fameuse expérience avec les fentes qu'on explique dans le livre. Il y en a une deuxième qui fait toujours débat, puisqu'on a des discussions avec Alain Aspect, Olivier Darigol, sur la deuxième expérience de pensée qui concerne en fait une autre relation d'indétermination moins évidente entre une énergie et un temps, et qui fait intervenir une boîte à photons. Donc, Einstein imagine qu'on peut connaître exactement le moment où un photon va s'échapper d'une boîte tout en connaissant exactement l'énergie de ce photon. Donc, c'est une autre expérience de pensée à laquelle Bohr va également répondre, même si sa réponse ne convainc pas totalement Alain. Mais c'est bien, on a toujours des débats aujourd'hui, vous voyez, presque 100 ans plus tard. Et donc, effectivement, Einstein revient avec Podolsky et Rosen en 1935 avec...
Puisque tu as évoqué...
Je sens que la boîte à photons...
Non, ce n'est pas du tout. Comme tu as évoqué Heisenberg, je voudrais dire, je suis sûr qu'il y a dans la salle des gens qui ont subi des cours où on leur a parlé du principe d'incertitude d'Heisenberg. Et c'est un des morceaux du livre qui m'a demandé le plus de mal. Non, mais c'est important que je signale ça. Qui m'a demandé le plus de mal. Et pourtant, j'ai enseigné à la physique quantique pendant des décennies et décennies. Et il me semble que, à force de discuter et tout... on a réussi à clarifier ce que sont les relations de Heisenberg, me semble-t-il, d'une façon un peu plus poussée que ce qu'on va trouver dans la plupart des explications. C'est à tel point que j'étais tellement content d'avoir réussi à clarifier ça comme ça que j'ai rédigé 3 pages, alors que les épreuves, on était au moment des épreuves du livre, et vous savez combien un éditeur n'aime pas du tout qu'on veuille lui faire modifier au moment des épreuves, et... j'ai dit, attendez, non, mais ça, c'est tellement important. Et ils ont accepté de remplacer les 3... Il y avait 3 ou 4 pages. Hein,
mais on a fait en sorte pour que la nouvelle version ait à peu près exactement le même nombre de signes.
Alors ça, c'était le boulot de Gauthier. Voilà. Gauthier, il comptait les signes. Il disait, non, là, Alain, il faut que tu raccourcisses parce que sinon, ils ne vont jamais accepter de...
Mais à la fin, la maquettiste n'a rien dit.
La maquettiste a accepté. Je voudrais dire, donc, pour ceux d'entre vous qui sont un peu scientifiques et qui ont travaillé là-dessus, je pense que ce qui est écrit là-dedans sur les relations d'incertitude de Heisenberg, jamais je l'ai écrit nulle part ailleurs.
Alors, je dois avouer que je ne les avais jamais comprises dans mes études et que là, j'ai compris ce que je lisais. Donc, bravo, merci.
Mais c'est un des moments... Vous voyez, c'est pour ça que c'est passionnant d'écrire un livre comme ça.
Alors, revenons sur Einstein qui revient en 1935 avec ses collègues Podolsky et Rosen, parce que là, du coup, on se rapproche du sujet de qui du sujet d'étude de d'Alain Aspect. On commence à toucher du doigt quelque chose qu'il va inventer, mais pourquoi, enfin, une expérience de pensée qu'il faut que vous nous décriviez pour qu'on comprenne pourquoi derrière Alain Aspect a passé toute sa vie à essayer de trancher.
Moi, je pense qu'Alain va la décrire parce qu'il fait ça mieux que personne, mais simplement, effectivement, en 1935, donc Einstein revient avec une autre expérience de pensée qui, cette fois, fait intervenir deux particules. Et c'est à cette occasion qu'il découvre que le formalisme quantique prévoit un phénomène étrange qu'on appelle aujourd'hui l'intrication quantique, sorte de lien étrange entre deux particules, quelle que soit leur séparation dans l'espace. Et en fait, c'est là qu'Einstein va comprendre que peut-être que ce lien, en fait, n'existe pas, et il va essayer de prouver par une expérience de pensée que les particules possédaient dès le départ des propriétés qui font que quand on les mesure plus tard à un certain endroit, elles vont donner tel ou tel résultat de mesure.
Tu veux que je développe un
peu ? Vas-y, je t'en prie.
Alors, parce que sinon, on ne comprendra pas l'expérience que vous avez faite pour en laboratoire.
Sachant que la version que va vous donner Alain n'est pas la version d'origine.
Non.
C'est une version qui a été développée.
Développée par, en particulier, David Bohm, il faut quand même le dire, et bien mise en valeur.
Un peu postérieure à Einstein, mais c'est la même idée.
Mais l'esprit, là, ce que Einstein, Podolsky et Rosen ont compris, c'est qu'il existe un état. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on décrit les objets par des états qui sont des êtres mathématiques abstraits. Et ils vont comprendre qu'on peut avoir un état décrivant les deux particules qui, même lorsque les deux particules sont loin l'une de l'autre, est un état commun aux deux particules. Et ça va se traduire par la prédiction de la chose suivante. Je prends deux particules, elles ont interagi, elles s'éloignent, et sur ces particules, je peux faire des mesures, par exemple, dans les expériences donc, que j'ai faites, je ne suis pas le seul à avoir fait des expériences comme ça, on va mesurer la polarisation. Et quand je mesure la polarisation, je peux avoir deux résultats, que je peux appeler plus un ou moins un. Je veux dire que mon photon arrive, il tombe sur cet appareil qui est un polariseur, ou bien il sort en haut, ou bien il sort en bas. En haut, je l'appelle plus 1, en bas, je l'appelle moins 1. Et donc, l'état intriqué d'Einstein, Podolsky, Rosen, vous envoyez vos deux photons, vous regardez ici, ça a l'air parfaitement aléatoire. Un coup, c'est plus 1, un coup, c'est plus 1, un coup, c'est moins 1, etc. Ceux qui sont là regardent, là, c'est Alice, là, c'est Bob, ils regardent Bob, et puis ça a l'air parfaitement aléatoire. Mais ceux qui sont un peu plus loin et qui ont bonne vue, ils constatent la chose étonnante, c'est que bien que ce soit apparemment aléatoire de chaque côté, quand on a plus un d'un côté, on a plus un de l'autre. Et quand on a moins un d'un côté, on a moins un de l'autre. Et là, Einstein dit, attendez, il y a vraiment une explication raisonnable pour ça. L'explication raisonnable, c'est que dès le départ, les deux particules avaient une propriété commune. On savait dès le départ que ce serait plus un, ou on savait dès le départ que ce serait moins un. Et là, Bohr dit « pas d'accord, parce que tu m'introduis deux classes différentes de particules, celles qui au départ étaient plus un et les autres qui étaient moins un, mais moi, je dis que toutes les paires de particules sont décrites de la même façon par le même être mathématique. Tu n'as pas le droit de rajouter des paramètres supplémentaires. » Et Einstein dit « mais bien sûr ». Et du coup, ça permet à Einstein de dire « tu vois bien que si je rajoute une structure en dessous, j'ai plus besoin de cette théorie des probabilités. » Et Bohr dit non. Et c'est là qu'est le débat. Tu expliques que c'est un débat philosophique après ?
C'est un débat philosophique.
Oui, il y a une chose, à mon avis, qui est dite dans le livre et que je n'ai pas vue souvent, qui est de dire que Bohr n'avait pas compris, n'avait pas pris la mesure en fait, du fait qu'il y ait deux particules plutôt qu'une. Comme tu l'as expliqué dans le livre, Bohr, la réponse de Bohr, qui est très sibylline, hein, qui est publiée la même année avec le même titre que l'article d'Einstein, Podolsky, Rosen, insiste sur le fait qu'on ne peut pas séparer l'objet que l'on mesure de l'instrument qui le mesure. Mais il insiste beaucoup là-dessus et pas vraiment sur le fait qu'il y a deux particules. Et ça, je pense que c'est important.
Il n'a pas pris la mesure du fait qu'en imaginant deux particules séparées, Einstein, Podolsky et Rosen ont fait un pas conceptuel extraordinaire. Parce que tant que vous avez deux particules intriquées qui sont proches l'une de l'autre, par exemple les deux électrons qui sont dans l'atome d'hélium, beaucoup d'entre vous savent qu'il y a deux électrons, vous les décrivez par un état intriqué, bah ok, on est dans le monde microscopique, ils sont liés entre eux, bah oui, ils sont tellement près qu'ils sont liés entre eux. Quand vous êtes à 12 mètres, ou à 100 mètres, ou à 1000 km, là, c'est autre chose, le fait de dire qu'ils continuent à être liés l'un à l'autre.
Alors en fait, c'est un débat super intéressant, philosophique, mais en fait, ça n'intéresse pas grand monde après. C'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai, parce que c'est un débat d'une expérience de pensée. Ça n'a pas empêché la recherche d'avancer, les équations fonctionnaient, donc les scientifiques ont continué à travailler. Je dis ça, c'est caricatural, parce qu'en fait... Mais par contre...
C'est pas caricatural, c'est la réalité.
Non, mais c'est-à-dire qu'on a un débat fondamental philosophique, tout le monde s'en fiche, on continue à travailler, très bien. Sauf qu'il y a des gens qui se disent, ok, mais est-ce qu'on pourrait trancher ce débat?
Alors attendez, moi je voudrais défendre mes collègues physiciens qui s'en fichent, comme
je
vous
les attaquez pas. Hein.
Ils ont autre chose à faire. La mécanique quantique leur apporte tous les jours des explications et des phénomènes extraordinaires qui sont observés dans les laboratoires. On leur a expliqué qu'il y a un débat entre Bohr et Einstein, mais que ce débat est de nature purement philosophique. Finalement, ça dépend de la position philosophique que vous avez sur ce qu'on appelle la réalité physique. Bohr et Einstein n'ont pas la même notion de réalité physique. Vous êtes en pleine activité, vous observez des phénomènes, vous les décrivez, vous n'avez pas de temps à perdre avec ça. Vous dites, quand je serai à la retraite, j'aurai du temps à passer, je réfléchirai à ces choses-là. Qui plus est, il ne faut pas sous-estimer l'importance de von Neumann. Von Neumann, un des plus grands esprits de l'époque, écrit en 1932, je crois, ou 1933, c'est lui l'historien. Il écrit un bouquin qui sont les bases mathématiques de la physique quantique, qui est absolument extraordinaire. Et dans ce bouquin, il règle son compte au point de vue d'Einstein en prétendant, je dis bien prétendant parce qu'en fait, on sait depuis que la preuve était fausse, en prétendant démontrer que ce n'est pas possible de compléter la mécanique quantique. Et donc, von Neumann a un tel prestige, etc., que les gens, déjà, ils pensent que le sujet n'est pas intéressant. En plus, von Neumann a montré que ce n'était pas possible. Et c'est là que va intervenir, 30 ans plus tard, John Bell. John Bell, lui, convaincu qu'on peut compléter la mécanique quantique, commence par trouver une erreur dans le raisonnement de von Neumann.
Dans cette longue continuité, John Bell, lui, est plutôt du côté d'Einstein.
Oui. Il pense que c'est raisonnable de vouloir compléter la mécanique quantique. Et comme il connaît la preuve de von Neumann, il décortique et il trouve la faute dans le raisonnement de von Neumann. Et ce qui est extraordinaire, Gauthier, c'est que, quelques mois après, lui-même, il trouve de nouveau une contradiction entre le point de vue d'Einstein et la physique quantique. Donc, ce qu'il a démoni chez von Neumann, il va lui-même le démontrer, John Bell. Il va montrer que si on prend le point de vue d'Einstein, il y a un moment où ce point de vue entre en conflit avec les prédictions du fameux formalisme quantique qui marche à tous les coups.
Donc ça veut dire que John Bell doit essayer de mettre cette contradiction en équation. Il y a des gens qui ont essayé de commencer à expérimenter. C'est là qu'on rentre dans toute cette démarche scientifique que je trouve passionnante. On part d'une expérience de pensée très philosophique qui se traduit dans une inégalité, celle de Bell, qui dit si on arrivait à faire une expérience et qu'on soit d'un côté ou de l'autre de cette frontière, on pourrait trancher. Et puis, il y a des scientifiques qui se disent, tiens, on va commencer à bricoler pour essayer de voir si on peut expérimenter quelque chose. Je dis bricoler dans le sens très noble du terme, parce que dans le bouquin, d'ailleurs, au passage, on en parlera certainement tout à l'heure, mais quand on voit comment vous avez imaginé vos expériences, les réaliser, on est à la fois dans de la haute technologie et, pas de la bricole, mais quelque chose d'assemblé, de fait dans un labo, par vous-même. Et c'est là que vous intervenez, après deux autres collègues qui avaient fait des expériences contradictoires pour essayer de vérifier si John Bell, on était plus ou moins du côté de cette inégalité. Et c'est là que vous intervenez. Alors du coup, j'ai encore cette question-là, parce que le débat n'intéresse toujours personne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait vous lancer dans un champ de recherche qui n'intéresse tellement peu de monde que vos collègues, quand vous leur dites « j'aimerais travailler là-dessus », ils vous demandent si vous avez une situation stable.
C'est John Bell lui-même.
C'est John Bell.
Parce qu'on me donne l'article de John Bell. Ça, coup de chance. Je lis cet article, je suis totalement convaincu que le sujet est passionnant. Bon. Dans le même dossier, on est en 1974, dans le même dossier, il y a les résultats contradictoires de l'expérience de Clauser et de l'expérience de Holt et Pipkin. Je dis, ah ben zut, moi qui voulais travailler là-dedans, il y en a qui ont déjà fait des choses. Et là, j'ai tellement envie de travailler là-dedans que je n'ai de cesse de me dire il faut que je trouve une expérience plus avancée que celle des deux autres pour que ça vaille la peine de s'y lancer. L'idée arrive. Je vais voir le jeune professeur Christian Imbert qui m'avait donné le dossier. Je lui dis, j'ai une idée, je voudrais faire cette expérience.
Vous êtes thésard à cette époque-là.
Je ne suis rien du tout. Je vais lui proposer ça comme sujet de thèse. Je vais lui dire, j'aimerais faire une thèse, je pense que vous voyez encore à l'époque, chez vous, sur ce sujet. C'est vous qui m'avez donné l'article de Bell, donc c'est normal que je vienne vous proposer ça. Il me dit, écoute, je suis pas sûr de comprendre suffisamment bien l'enjeu. Va voir Bell. Et c'est là où je vais à Genève, au CERN. Je rencontre Bell, je lui raconte mon histoire. Et première question de Bell, moi je croyais qu'elle allait être sur la physique. Il me dit, do you have a permanent position? Est-ce que vous avez une situation stable? Et je lui dis, pourquoi? Et là, il m'explique, il utilise un mot anglais que je ne comprends pas, il m'explique que les gens qui travaillent sur ce sujet sont considérés par la communauté comme des crackpots. Alors je lui dis, ça veut dire quoi, crackpot? Alors depuis, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire cafetière fêlée. Ça veut dire des barjots. Et je lui dis, mais oui, j'ai une situation stable. Il se trouve que je suis maître assistant. Et du moment que je fais bien mes cours à l'ENS de Cachan, après, je fais ce que je veux en recherche. Et là, il me dit, ah bon, alors on parle de physique. Et là, il m'encourage. Mais ça donne l'atmosphère de l'époque. Et ce qui est, alors pourquoi je me lance là-dedans? Parce que je suis totalement naïf. Et qu'au moment où on m'explique que c'est un sujet de crackpot, j'ai déjà eu mon idée et j'ai envie de faire l'expérience. Peut-être si on me l'avait dit plus tôt, si on m'avait dit « écoute, Aspect, laisse tomber cette histoire », peut-être que je serais passé à autre chose. Mais là, j'avais déjà ma première idée, qui est l'idée qui, quand même, m'a conduit à Stockholm et au prix Nobel.
Vous pouvez nous en expliquer le principe? Parce que c'est une autre partie intéressante du livre, c'est-à-dire comment on transforme ces expériences de pensée. Alors, comment on regarde les inégalités, comment on se dit, tiens, je vais essayer de les tester.
Non, mais il y a d'abord le principe de ce qui a été fait. Ce qui a été démontré, en plus des expériences des précédentes, c'est que vraiment, quand les deux particules, les deux photons se propagent, jusqu'au dernier moment, c'est encore pas décidé de savoir si c'est plus 1 ou moins 1. Ce n'est qu'au dernier moment que ça va se décider. Et donc, l'image que vous en retirez, c'est la fameuse non-localité quantique, c'est qu'au dernier moment, tac, c'est plus un, et instantanément, c'est plus un de l'autre côté. Et ce qu'a montré ma troisième expérience, c'est que c'est vraiment au dernier moment, et pas auparavant, que ça s'est décidé. Alors après, il fallait le réaliser. Pour le réaliser, il fallait changer l'orientation du polariseur en quelques nanosecondes. Nanoseconde égale milliardième de seconde. La lumière parcourt 30 cm à un milliardaire de seconde.
Parce que votre labo n'était pas très grand, en fait. Vous n'aviez pas beaucoup de distance.
Non, oui, 12 mètres.
Donc vous envoyez deux photons de chaque côté. Ouais. Entre les deux, il faut que vous les regardiez proprement.
Voilà.
C'est ça l'idée.
Donc, en quelques nanosecondes, il faut tourner un polariseur. Alors, polariseur, ça fait quelques dizaines de kilos, mettons quelques kilos. On ne va pas tourner en quelques milliardièmes de seconde. Et donc, j'arrive avec une idée qui, après tout, est une idée assez simple, qui est l'idée que si j'arrive à faire un aiguillage assez rapide, j'envoie soit vers le premier polariseur orienté comme ça, soit vers le deuxième polariseur orienté comme ça. Si l'aiguillage est assez rapide, ça va marcher. Quel aiguillage? Je tourne autour de beaucoup d'idées. Et puis, à un moment donné, j'ai une idée qui m'est inspirée par deux choses. Le fait que j'enseigne aux agrégatifs de l'ENS de Cachan l'interaction entre une onde acoustique et une onde lumineuse qui permet de défléchir la lumière. Et il y a des débats sur qu'est-ce qui se passe quand c'est une onde progressive et qu'est-ce qui se passe quand c'est une onde stationnaire. Et là, d'un seul coup, ça fait tilt dans mon cerveau. Et je vois une amie qui était dans la même classe que moi au lycée en terminale à Agen, et nous avions vu, et je te vois bien qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, et nous avions vu une expérience que m'avait faite M. Hirsch qui montrait que ce qui est magique, ce qui est particulier à une onde stationnaire, c'est qu'un coup, elle est là, et la lumière va pouvoir être diffractée, et un quart de période plus tard, elle est plate, et la lumière n'est pas diffractée. Et en utilisant une onde stationnaire, je peux alterner entre laisser passer la lumière ou la renvoyer vers l'autre polariseur, et c'est l'idée que je vais publier, et c'est l'idée qui conduit à l'expérience qui finalement m'a amené à Stockholm. Et pour terminer, après je te laisse la parole, on vous demande quand vous allez au prix Nobel d'amener un objet symbolique de votre expérience, et l'objet que j'ai déposé au musée Nobel de Stockholm, c'est le commutateur.
Oui, je voulais ajouter, toute cette aventure est racontée dans les chapitres 6 et 7 du livre. Et là, tu as raconté ce qu'on appelle, nous, un peu l'histoire monumentale. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'on a vraiment insisté dans les chapitres 6 et 7 sur toutes les difficultés, et ça intéresse particulièrement l'historien des sciences, toutes les difficultés que tu as dû affronter pour faire ces expériences. Alors, tu l'as dit, il y avait cet état d'esprit déjà très... négatif vis-à-vis de ce genre d'expérience. Le fait que tu as rencontré, c'est une vraie aventure humaine, hein, vous le verrez dans le livre, tu as rencontré un directeur de thèse qui t'a fait confiance, qui a fait confiance à John Bell. On a aussi mis l'accent sur l'importance à la fois des personnes, des ingénieurs, techniciens qui travaillaient avec toi sur l'expérience, mais aussi de toutes les personnes qui ont accepté de te prêter du matériel en France et aussi aux Pays-Bas, n'est-ce pas ? Les lasers qui cassent, le fait que tu te retrouves au pied du mur quand tu n'as pas encore l'idée d'utiliser l'eau pour le système acousto-optique qui sert justement à faire les commutations dont tu parlais. Donc, il y a un tas, en fait, d'obstacles qu'il a fallu surmonter. Et je suis très content que dans ces chapitres du livre, on ait insisté aussi sur la difficulté qu'il y avait à mener ces expériences. Et voilà, c'est aussi comme ça que la science progresse. Donc, je suis très content, avec beaucoup aussi d'images, hein, je le dis. J'ai récupéré... Tu m'as fourni des diapositives.
Mon épouse a fourni des vieilles photos.
Voilà,
c'est lui qui les a triées et qui sont dans le
cahier. On a ressorti les albums photos et donc il y a des photos inédites. Et cela contredit le charmant commentaire que quelqu'un a mis sur Amazon et qui a dit « Rien de neuf sous le soleil, passez votre chemin ». Donc non, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses nouvelles dans ce livre, en particulier ces photos inédites des expériences des années 70-80.
Alors, je voudrais dire que sur le fait qu'on a donné comme ça des détails sur la petite histoire et pas l'histoire monumentale, Gauthier a joué un rôle. Je pense que déjà, il était convaincu de l'intérêt. Et en plus, je pense qu'Odile Jacob t'avait dit, Gauthier, expliquez à Alain qu'il faut qu'il raconte ces histoires-là. Et je pense que, oui, le livre ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas eu cette connivence entre l'éditrice et Gauthier.
Et ensuite, c'est très important aussi parce que ça nous fait vivre la démarche scientifique. Vraiment, c'est-à-dire qu'on ne parle pas juste de mécanique quantique, des photons et tout. On comprend cette démarche scientifique et je sais que vous y accordez une importance particulière. En tout cas, pour vous, c'est très important. Et on le vit bien tout au long du bouquin, que ce soit depuis le début du 20e jusqu'à la réalisation des expériences. Du coup, quelles sont les implications théoriques de votre expérience ? C'est-à-dire comment, par rapport au débat, est-ce qu'on peut dire qu'Einstein s'était trompé ? Parce que vous dites s'il avait su, mais est-ce qu'il s'est trompé ?
C'est toujours la question qui tue. Hein.
Mais non, mais on pose la question, donc autant que je la pose maintenant, parce que sinon on l'aura après.
Techniquement, oui. La conclusion d'Einstein, qu'il faut absolument compléter la mécanique pour pouvoir décrire ces corrélations, ça, c'est faux. Il n'y a pas à la compléter. Et même, on ne peut pas la compléter dans l'esprit des idées d'Einstein, c'est-à-dire sa vision du monde, qu'on appelle le réalisme local. Bon, on ne va pas y passer trop de temps, c'est expliqué là-dedans ce que c'est le réalisme local. Donc techniquement, c'est vrai sur ce plan-là, mais la conclusion théorique, finalement, elle est à la fois décevante et extraordinaire. Elle est décevante par le fait que, comme je le dis à un moment donné, la bête s'est bien défendue. La physique quantique a une fois de plus résisté à une attaque. Donc la physique quantique a raison. Vous prenez les équations de la physique quantique, elles sont bonnes, elles ont été validées par l'expérience. Sauf que quand vous essayez de vous représenter ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ces deux photons qui sont à 12 mètres l'un de l'autre, maintenant à 1000 km avec les Chinois, et puis que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si on va avoir plus un ou moins un, et que c'est au dernier moment qu'on a plus un des deux côtés, au moins un des deux côtés, ça vous oblige à réfléchir. Et ça oblige tellement à réfléchir que des gens créatifs, pas moi, moi je n'avais absolument pas vu venir ça, se disent on va pouvoir l'utiliser pour des technologies quantiques. Et c'est ce qu'on esquisse dans le dernier chapitre. Par exemple, la cryptographie quantique, ça repose totalement sur le fait que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si ça va être plus un ou moins un. Et l'espion qui est entre les deux, qui cherche à intercepter l'information, ben, il n'y a pas d'information à capter.
En fait, moi, j'ai un peu horreur en histoire des sciences en général et en particulier pour Einstein qu'on dise que rétrospectivement, les gens se sont trompés. Bon, d'abord dans le cas d'Einstein, parce que je pense que c'est ce genre de formule qui conduit après à dire qu'il n'avait rien compris à la mécanique quantique. Donc, évidemment, il faut faire attention. Mais aussi parce que je pense tout simplement qu'il ne s'est pas trompé. Ce n'est pas comme s'il avait fait une erreur de calcul. Il a vraiment proposé une expérience de pensée qui est absolument... Il y a des hypothèses, vous pouvez lire l'article, qui sont absolument rigoureuses, une conclusion, un raisonnement qui est absolument rigoureux. Je veux dire, à l'époque où il publie cet article avec Podolsky et Rosen, il y a absolument aucune raison de dire qu'il s'est trompé.
D'ailleurs, la réponse de Bohr est parfaitement confuse.
Oui, en plus. Donc, et puis on pourrait imaginer un monde dans lequel les expériences auraient confirmé la position d'Einstein. J'ai à partir du moment où on n'a pas fait les expériences, il n'y avait aucune erreur dans son raisonnement. Donc j'ai un peu du mal avec cette idée qu'Einstein se serait trompé. Il faut faire attention avec les jugements rétrospectifs de façon générale.
C'était provocateur. Du coup, pour répondre à la question, et si Einstein avait su, si maintenant il venait, il dirait quoi ? Est-ce qu'il dirait, conformément à la démarche scientifique ? Alors,
ça, on a dit qu'on ne répondait pas à cette question.
Ouais, il faut acheter le livre pour...
Non, parce que sinon, on spoil la fin, c'est pas possible, ça.
Vous seriez déçu.
Si vous connaissez la fin du polar avant de commencer, ça va pas.
D'accord. Bon, ben, je laisserai tout le monde découvrir. Alors, si on arrive bientôt au terme de notre échange. Alors, avant de passer aux questions de la salle, j'aimerais avoir votre avis sur, plus largement, le grand écart que nous vivons aujourd'hui entre une science qui n'a jamais été aussi enthousiasmante, faite de découvertes fabuleuses, constituées de chercheuses et de chercheurs qui sont passionnés et qui repoussent le champ de la connaissance, et d'un autre côté, une société où le vrai a presque plus de sens, où la démarche scientifique est remise en question. Moi, je suis tombé sur une vidéo avant-hier sur YouTube qui avait fait 2 millions de vues et que... Comme thématique, les pyramides égyptiennes sont des catalyseurs quantiques, des forces telluriques pour ouvrir un portail de l'espace-temps pour rejoindre des civilisations extraterrestres que les élites corrompues nous cachent.
Alors moi, j'ai une vision de ça qui est relativement simple. Il est sans espoir de convaincre les plus extrêmes, les platistes, ceux qui croient ça. Mais de notre côté, ce qui me rend optimiste, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est tout ce public, vous en êtes un exemple, qui, lui, a envie d'entendre parler de science. Et ces gens-là, il ne faut pas les perdre. Il faut les alimenter. Il faut leur expliquer comme la science est belle. Donc je pense que c'est en faisant ça, et puis j'espère qu'en faisant ça, d'une part, nous gardons avec nous ceux qui sont déjà convaincus que la science est intéressante, est belle et est bonne pour la société. Donc déjà, on les garde avec nous, on ne les laisse pas s'échapper. Et puis ceux qui sont dans la zone intermédiaire, peut-être qu'on va en attirer, qui viendront vers nous. Donc je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Mais ce n'est pas la peine d'aller expliquer aux zozos qui ont écrit ça qu'ils se trompent. Ils n'écouteront pas, de toute façon.
Oui, moi, il se trouve que, par ailleurs, je m'intéresse à un certain nombre de duels scientifiques qui ont émaillé l'histoire des sciences. Évidemment, le duel entre Einstein et Bohr en fait partie, mais j'en vois plein d'autres, et pas uniquement en physique. Je prépare un livre là-dessus, d'ailleurs. Et en fait, au-delà de vulgariser la science elle-même, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de vulgariser l'histoire des sciences. Et je trouve que c'est un formidable moyen de l'histoire des sciences d'expliquer justement comment la science progresse, comment on arrive à des consensus, et notamment via ces duels, parce qu'on se rend compte qu'à l'époque, il y avait deux personnels... Comme pour Bohr et Einstein, c'est vraiment la même idée. Moi, quand je prends deux personnes qui se battent sur une idée, je ne dis pas que l'un avait raison et l'autre s'est trompé. Je considère, dans leur époque, dans le champ des connaissances qui les entouraient, quels étaient les intérêts de leur position. Et voilà, je trouve qu'après, étudier comment... d'un point de vue scientifique, mais aussi sociologique, institutionnel, ce qu'on appelle externaliste, comment finalement les choses se sont décantées et comment on est arrivé à résoudre en quelque sorte chaque controverse pour arriver à un consensus. Et donc Alain souligne souvent cette idée qu'on arrive à un consensus, et moi je trouve que passer par l'histoire des sciences pour comprendre justement ces processus qui permettent d'arriver finalement à des consensus, c'est très important. Évidemment, ce livre en donne, je pense, un exemple flagrant.
Repartez vraiment, au cas où ce ne serait pas encore totalement clair dans votre esprit, sur l'idée que la science et le doute pendant une certaine phase de débat, et à un certain moment, le consensus s'établit, et à ce moment-là, la science, c'est un socle solide à partir duquel on va pouvoir faire le prochain pas qui peut-être donnera lieu à débat et puis ce sera résolu et on avancera comme ça. N'écoutez pas les gens qui vous disent la science est le doute et dont toutes les idées sont autorisées. Par exemple, la Terre peut être plate. Non.
Ce sera le mot de la fin. Gauthier de Pambourg, Alain Aspect, merci infiniment d'avoir pris le temps de partager avec nous ce voyage.